Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Big Brother, novlangue, des mots passés dans le vocabulaire courant et même pour le premier dans la culture populaire, mais leur inventeur, Eric Arthur Blair, c'est-à-dire George Orwell, reste en France peu voire pas connu. Né en 1903 en Inde, citoyen britannique, militant socialiste libertaire, très engagé contre le totalitarisme nazi, mais aussi contre le totalitarisme soviétique, auteur de 1984 et de La ferme des animaux, il est aussi l'auteur d'une foule d'autres livres, non traduits en français pour l'essentiel, et il est peut-être l'un de ceux qui ont le mieux analysé les cauchemars totalitaires et les fonctionnements profonds du totalitarisme au XXe siècle, dont nous venons tous. Il s'est en particulier concentré sur l'usage politique du langage et donc sur le rôle particulier des intellectuels dans la fabrication des cauchemars. Et dans l'époque tendue qui est la nôtre, où les langues de bois fleurissent à nouveau chez les intellectuels, comme toujours, quand on a besoin de nuances, dans un moment où un président peut dire que nous ne sommes plus des individus libres, mais une nation solidaire, peut-être est-il temps de redécouvrir George Orwell, l'écrivain qui, au-delà des clichés de science-fiction auxquels on limite 1984, intimait aux intellectuels d'être simples, de bannir le jargon et de ne jamais écrire une phrase incompréhensible. Avec, pour en parler aujourd'hui avec nous, Célia Izohar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous travaillez à la revue Z, revue itinérante de critique sociale. Vous avez écrit « Merci de changer de métier, lettres aux humains qui robotisent le monde » aux éditions La Dernière Lettre, qui est sortie, je crois, en octobre, c'est ça ? Et vous avez effectué une traduction de 1984 au Québec, dans la maison d'édition Rue d'Orient, qui va sortir chez Agone en janvier 2021. Bruce Bégout, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de Husserl. Vous avez écrit beaucoup de livres, des romans comme Le Sauvetage chez Fayard en 2018, et vous avez écrit De la décence ordinaire, court essai sur une idée fondamentale de la pensée politique de George Orwell chez Alia en 2008. Et enfin, Raphaël Antoven, bonjour. Allô, allô.
Raphaël Antoven, bonjour.
Oui, je vous entends très bien. Oui,
bonjour,
oui. Voilà. Bonjour, vous êtes philosophe, vous avez écrit beaucoup de livres vous aussi, Union mixte, mariage libre et Nos barbares aux éditions Diecta, Little Brother chez Gallimard en 2017, et puis votre dernier livre évidemment cet automne, Le temps gagné aux éditions de l'Observatoire. Alors, pour commencer, je le disais tout à l'heure, Orwell reste curieusement méconnu en France. Il a été relativement peu traduit. Gallimard, qui a publié 1984, ne s'est pas tellement intéressé à l'édition de ses œuvres complètes. Ce sont les éditions Lebovici dans les années 70 qui ont convaincu les agents littéraires chargés de l'œuvre d'Orwell qu'il était temps de l'éditer, vraiment. Mais Gallimard a longtemps conservé les droits tout en refusant et de refaire retraduire les livres et de faire traduire les volumes d'essais parus en 68 et qui ne sont toujours pas d'ailleurs édités en France aujourd'hui. Et c'est donc Champ Libre, l'édition Lebovici, qui ont commencé à retraduire tous les titres d'Orwell. Et la première question, c'est celle-là. Comment est-ce que ça s'explique, ce désintérêt pour Orwell en France ?
À qui le demander ?
À qui je demande ? C'est une bonne question. À Bruce Bégout, par exemple.
Ah, écoutez, je n'ai pas vraiment de réponse très précise à apporter sur ce plan-là. Il est vrai peut-être qu'en France, la puissance du marxisme traditionnel, du structuralisme et de la psychanalyse ont peut-être pendant longtemps masqué, au fond, les questionnements qui étaient ceux d'Orwell, qui ne relevaient pas vraiment de ces traditions, théoriques. Donc c'est peut-être une explication. Après, bon, il a... Depuis quand même une vingtaine d'années, il est quand même beaucoup lu, beaucoup commenté, beaucoup traduit. Et donc peut-être il est temps de réparer cet oubli relatif et temporaire.
Célia Isoar, vous avez vu la traduction de Gallimard, et puis vous avez vu aussi la nouvelle traduction de Gallimard par José Camoun, et puis le fameux article de Jean-Jacques Rosa publié sur cette traduction en attendant Nadeau. Jean-Jacques Rosa critique assez sévèrement les traductions de Gallimard. Vous aussi d'ailleurs.
Mais plus globalement, tout le processus d'édition, plus encore que la traduction, c'est-à-dire que ce sont des choix qui vont tout à fait dans le droit fil de ce que Gallimard a fait de l'œuvre d'Orwell en exploitant les titres les plus vendeurs, comme 1984 ou La ferme des animaux, et en les traitant en pure littérature, mais en littérature finalement un peu de bas étage. C'est-à-dire que moi, j'étais très étonnée quand je me suis lancée dans cette retraduction en 2017 de constater que l'édition de Gallimard depuis 1950, celle qui était toujours en vente et qui l'est toujours aujourd'hui, il manquait dans cette édition 42 phrases. Un certain nombre de contresens très très graves.
Oui, il y a des erreurs. Vous parlez d'erreurs comme le fait que dans la traduction française, les prolétaires dans le livre représentent 85% de la population du pays où se passe le livre, alors que la traduction française dit 15%.
Par exemple, ce qui change totalement le régime en lui-même.
Voilà.
Mais donc, dans l'ensemble, globalement, cette traduction a été lancée de notre part parce que sur le fond et sur le plan philosophique et sur le plan politique, il était impossible de travailler dessus de manière rigoureuse. Parce qu'en réalité, tout un tas de choses n'étaient pas prises au sérieux dans la traduction initiale qui était rapide et assez inégale. Mmh. Et donc, effectivement, dans la traduction qui a été réalisée par José Camoun, on retrouve un peu le même mécanisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va traiter 1984 comme un pur ouvrage littéraire qui n'aurait pas de contenu politique, ce qui est totalement contre-intuitif, puisque les concepts d'Orwell, comme vous l'avez bien dit, sont totalement incorporés dans la culture et même la culture populaire. Mmh. Et donc ce qu'on peut reprocher à cette traduction, mais au-delà aux choix éditoriaux qui président, c'est bien sûr une mise en abîme très très fâcheuse de ce roman, puisqu'il est réécrit intégralement au présent dans la traduction de José Camoun, alors même que l'idée principale du roman, c'est le fait que le pouvoir efface le passé pour maintenir sa domination, mais également le fait qu'on va détruire, neutraliser des concepts comme novlangue, comme crime de pensée, comme police de la pensée, qui sont traduits par néo-parler, manteau-police, manteau-crime. Et donc, qu'on sape la possibilité même de continuer à réfléchir autour de ces questions politiques d'une manière qui mettrait tout le monde d'accord, au moins sur les mots, pour ensuite réfléchir sur les idées.
Oui, c'est-à-dire que
c'est exactement ce que décrit Orwell dans 1984.
Oui, paradoxalement, les termes qui sont passés dans le langage courant, qui sont utilisés au départ par Orwell, qui ont été traduits comme effectivement police de la pensée, et novlangue, bien sûr, disparaissent des nouvelles traductions.
Voilà, et donc Gallimard a fait paraître après cette traduction une nouvelle, Philippe Jaworski, qui retraduit au passé, donc dans la Pléiade et bientôt en poche, mais qui ne garde pas non plus la novlangue. Il parle de néo-parle. Et là encore, on est vraiment exactement dans la critique que faisait Orwell aux intellectuels, la dépossession du langage.
Oui. Raphaël Enthoven, vous avez découvert comment Orwell?
Je l'ai d'abord lu, vous m'entendez, Marc?
Oui, très bien.
Je l'ai d'abord lu dans la traduction d'Amélie Audiberti, comme tout le monde, c'est-à-dire la traduction de 1950, en fait, la première. Je l'ai lu avec ses limites. Alors, je n'avais pas de référent, je connaissais pas le texte anglais, donc j'ai quand même été émerveillé par ce texte. J'avais pas en tête les phrases manquantes, bien sûr. Donc, j'ai d'abord grandi là-dedans. Donc, c'est pour ça, mini-vers, novlangue, etc. font partie de mon lexique aussi. Et j'adhérais beaucoup à ces termes. J'ai ensuite lu la traduction de José Camoun, que je trouve merveilleuse. Mm-hmm. Merveilleuse pour une raison très simple, c'est qu'elle rend justice au fait que 1984 est un livre d'abord sur la mémoire, sur le fait qu'on façonne les individus et qu'on les contrôle en contrôlant le passé, et la mutabilité du passé, c'est-à-dire l'idée que on peut changer le passé au gré des besoins du présent, ce qui est le problème de Winston Smith et l'usage de la double pensée, on va en parler. Cette idée-là est rendue merveilleusement par la restitution au présent même de l'action elle-même. Et ça, je trouve que c'est un parti extrêmement intelligent. Mm-hmm. Par ailleurs, je vois pas du tout, je comprends pas ce procès d'intention, je vois pas en quoi la substitution de néo-parler à novlangue est une façon d'entrer soi-même dans la novlangue. C'est juste une façon de rendre justice au fait que le néo-parler, l'usage de l'infini avait pour objet de montrer à quel point les gouvernants veulent faire entrer dans les pratiques, dans les habitudes, dans les manières, les individus, c'est-à-dire dans le tissu social lui-même, ce nouveau lexique, et qu'en somme, ce nouveau lexique n'existe pas séparément de sa pratique. Donc, il y avait un sens. Moi, je garde novlangue parce que j'ai l'habitude d'en parler comme ça, mais il y avait un sens à employer néo-parler, et en aucun cas. Ces altérations de lexique dans les différentes traductions ne témoignent d'une soumission à je ne sais quel totalitarisme sournois ou implicite. En aucune façon, le livre tel qu'il est traduit par José Camoun est aussi subversif, plus court, il est vrai, parce qu'elle a une traduction plus concise, mais il est d'une efficacité redoutable. Mmh. Et ce livre-là, ainsi traduit, permet d'entendre des choses étonnantes. On aura peut-être le temps d'en parler, notamment le fait paradoxal que la description de l'Union soviétique ressemble étonnamment à l'économie de marché. Voilà.
Et ça, c'est
encore une autre histoire.
Mais pour finir quand même sur cette histoire de traduction, ce que dit Jean-Jacques Rosa, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, hein, mais dans son article polémique en attendant Nadeau, ce qu'il dit, c'est que la transformation des mots change le sens. Par exemple, le terme mentocrime pour police de la pensée, par exemple, modifie un peu la signification. C'est-à-dire que
ça donne un tour romanesque. Ça donne un tour effectivement plus romanesque, plus vivant à la chose. Mais on ne voit pas moins la réalité, mentocrime.
Et l'élément central que l'un des arguments centraux de Rosa, il prend un exemple dans la traduction française. Donc, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, qu'elle soit accordée et le reste suivra. C'est la phrase en français écrite par Winston dans le livre. Et dans l'original, la dernière phrase est « If that is granted, all else follows ». Donc, ce n'est pas la liberté qui doit être accordée, mais cela. Et pour Jean-Jacques Rosa, l'erreur est évidente. Ce n'est pas la liberté qui doit être accordée, comme le voudrait José Camoun, mais l'axiome, c'est-à-dire l'axiome qui pose que la liberté est la liberté de dire que 2 et 2 font 4.
Je ne doute pas que ce soit l'intention de José Camoun. Enfin, bon.
Non, mais je ne sais pas. Alors, sur l'intention, c'est juste l'argument que je donne ici pour être discuté. C'est-à-dire que pour Orwell, l'aspect vraiment important, c'est que la liberté, c'est l'accès à la vérité et non pas la possibilité de dire ce qu'on veut. C'est ça la différence.
C'est aussi la raison pour laquelle on a tort de parler de 1984 chaque fois qu'un gouvernement s'aventure à mettre une loi sur les fake news. On dit tout de suite, c'est le ministère de la vérité qui revient, comme si l'objet du ministère de la vérité c'était de contrôler l'information. De l'information, il n'y en a pas. Non, l'objet du ministère de la vérité, c'est de contrôler la mémoire. Et de fait, c'est toujours ce malentendu historique qui vient du fait que les gens ne lisent pas 1984, mais en ont une idée, est un malentendu qui fait que du coup, on situe, on manque le génie de cette œuvre, qui est que, comme c'est une description de l'Union soviétique, on veut voir 1984 comme la dystopie idéale pour représenter toute tentation totalitaire à l'intérieur d'un État. Mmh. Il me semble que 1984 désigne davantage cette façon hyper démocratique que nos libertés ont de mourir avec le sentiment de guérir, c'est-à-dire le fait que tout le monde s'épie, le fait qu'on se censure les uns les autres, etc., etc. Voilà. C'est cela que 1984 permet de comprendre aujourd'hui, plus encore que les dictatures verticales de grand-papa.
Mmh, mmh. Brice Bégout, vous êtes d'accord avec cette approche de 1984 ?
Oh, écoutez, c'est tout texte est toujours susceptible de recevoir des interprétations différentes et certaines enrichissent le texte, d'autres, bon, après chacun est juge des interprétations. Je pense que moi, je lis 1984 dans le contexte dans lequel il a été écrit. Surtout, j'essaie pas d'en tirer des leçons. Pour notre époque, même si bien évidemment il y a des choses que l'on peut utiliser dans ce texte et qui peut nous aider à comprendre certains phénomènes sociaux, politiques, technologiques, contemporains. Après, c'est un texte qui a été écrit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte très particulier, dans une position très particulière qui est celle d'Orwell, qui au fond est une sorte de socialiste anti-bolchevique, enfin anti-collectivisme oligarchique. Voilà, et ce texte, au fond, moi je vois plutôt l'écho de l'époque de 1948, hein, parce que le 1984, c'est 1948 inversé. Je vois surtout dans ce texte l'écho de cette époque et des problèmes que cette époque posait ou même annonçait pour Orwell. Alors bien évidemment, ce texte se veut quand même comme un texte parlant du futur, donc on peut bien évidemment l'utiliser pour essayer de comprendre les phénomènes futurs, voire notre présent. Après, bon, tous les rapprochements que l'on peut faire sont toujours parfois délicats, parfois subtils, parfois ils tombent à côté, mais bon, ça, chacun est libre des interprétations possibles. Après, sur les traductions, évidemment, le risque, c'est que la multiplicité des traductions, et puis si l'un traduit par novlangue, l'autre par néo-parlé, etc., je pense que au bout du compte, le réflexe qui adviendra, c'est de prendre le terme anglais pour éviter. Donc, on parlera là du newspeak. Vous voyez, bon, novlangue, me semble-t-il, c'était un peu imposé l'horizon au fond des études orwelliennes, etc. Bon, il y a peut-être parfois une petite coquetterie quand même du traducteur à vouloir comme ceci à imposer absolument un nouveau terme qui est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de plus essentiel, ça je ne sais pas, mais en tout cas ce que je vois moi comme effet, c'est que bon, si on a 3-4 traductions différentes pour le newspeak, ben, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on citera Orwell et le newspeak, ben on utilisera le terme newspeak pour ne plus avoir à rentrer dans les polémiques entre néo-parlé, novlangue ou d'autres possibilités.
On parlera anglais, quoi. Hey, don't tell nobody that you're having fun. Take it easy, walk, don't run. Be careful who you're talking to. Big brother, he's watching you. Don't say nothing about the CEO. When the money whistles, do-si-do. I only tell you 'cause it's true. Big brother, he's watching you. You see every little thing you do. Big brother, he's watching you. Be careful who you're talking to. Big brother, he's watching you. Voilà. Alors il faut, on va entrer dans le vif du sujet. Il faut résumer en deux phrases quand même 1984, qui est l'histoire de Winston Smith, 39 ans, habitant de Londres, en Océania, et qui travaille au ministère de la Vérité. Son job consiste à remanier les archives historiques pour faire correspondre le passé à la version officielle du parti. Et la journée est ponctuée par les deux minutes de haine, qui est l'espèce de rituel pendant lequel le visage de l'ennemi de Lang Sok, qui est l'Angleterre socialiste, apparaît, et c'est au cours de ces deux minutes de haine un jour que Winston va rencontrer une jeune femme du commissariat au roman, et la liaison entre eux va être va structurer un peu la suite du livre. George Orwell écrit ce bouquin en 46, comme on vient de le dire, c'est-à-dire à l'aube de la guerre froide. Et je me demande si il n'est pas, en quelque sorte, le premier dissident occidental, d'une certaine manière. Il y en a d'autres qui vont qu'on suive très vite Arthur Koestler et bien d'autres, mais il est peut-être le premier à avoir vu tout de suite la structure dans laquelle on était en train d'entrer à l'aube de la guerre froide. Et est-ce que c'est pas ça qui lui donne son aspect contemporain, finalement, cette manière d'analyser à la fois le communisme et le capitalisme sur les modes d'une sorte de répression intérieure et surtout de la manipulation du langage qui va devenir un de ses grands thèmes. Célia Isoa.
Alors, oui, alors justement, on pourrait reprendre à partir de ce qui a été dit. Orwell a vraiment pris le soin de souligner après la parution du roman que 1984 n'est pas uniquement une satire de l'Union soviétique.
Oui.
Il s'est donné la peine de dicter deux déclarations à son éditeur en expliquant que le nom suggéré dans 1984 est bien entendu Anksok, donc le socialisme anglais, mais que dans la pratique, un large éventail de choix est ouvert et qu'aux États-Unis, l'expression « américanisme à 100% » est appropriée. C'est-à-dire qu'il aurait pu tout à fait construire son roman en parlant de la dictature managériale dont il considérait qu'elle était en train de s'instaurer aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Mmh. Et c'est ça qui nous ramène dans l'intérêt extrêmement contemporain d'Orwell. C'est-à-dire qu'il a vu arriver des méga-États extrêmement puissants. La principale caractéristique de ces super-États, c'est l'asymétrie grandissante entre les moyens répressifs technologiques dont dispose le pouvoir et l'impuissance dans laquelle chacun des individus est jeté. Mmh. Et cette impuissance, elle est liée, pour Orwell, il l'explique très bien dans plusieurs textes, notamment dans le Cadwigan, elle est liée au fait d'avoir dissous les collectivités, les communautés de base, et d'avoir plongé avec cette foi aveugle dans la religion du progrès, dont qu'il critique énormément, d'avoir plongé les individus dans des univers artificialisés, dans lesquels ils sont isolés, dans lesquels ils ne font rien par eux-mêmes, et dans lesquels ils sont, dit Orwell, l'équivalent d'un cerveau dans un bocal. Mmh. Le roman 1984, c'est la mise en scène avec des moyens technologiques finalement bien inférieurs aux nôtres, bien moins sophistiqués, de ce cerveau dans un bocal, mmh, pour les membres du parti intérieur. Mmh. Tout est conditionné. Et finalement, cette critique n'est pas du tout cantonnée à ce que l'Union soviétique a construit comme mécanique de conditionnement. Elle est présente aussi, par exemple, dans un commentaire de 46 que fait Orwell sur les lieux de loisirs, les lieux marchands, les lieux de divertissement. Mmh. Il dit qu'il y a 5 caractéristiques à ces lieux de divertissement. On n'y est jamais seul, on n'y fait jamais rien par soi-même, on n'y est jamais en présence de végétation sauvage. La lumière et la température sont toujours réglées artificiellement et la musique est omniprésente. Et il montre à quel point la liberté est fragilisée par cette infrastructure même, mmh, qui rend possible toute distorsion. Et l'actualité de 1984, elle est évidemment en grande partie, mais pas seulement, là-dedans. C'est-à-dire que dans le quotidien qui est le nôtre aujourd'hui, le quotidien numérisé, les bocaux numériques rendent possible absolument toute distorsion.
Oui.
Mais
oui,
contrairement peut-être à ce que disait Raphaël Entovel tout à l'heure, je pense qu'il faut au contraire insister sur la verticalité de ce pouvoir. Orwell s'inspire de James Burnham, qui critique l'ère des managers, il critique une société technocratique. Et cette société technocratique, elle est verticale. Dans cette société, ce sont des managers, des organisateurs, qu'ils soient issus des instances privées, comme dans le capitalisme libéral, ou publiques, comme dans les sociétés étatisées, qui vont organiser la société jusque dans ses moindres détails. Et sa principale critique, c'est l'idée qu'il se représente la société comme une machine devant être contrôlée par une machine. Mmh, mmh. Et là, on est tout à fait dans un sentiment contemporain de notre aliénation.
Alors, l'année où sort 1984, Orwell publie aussi deux articles fondamentaux parce que qui sont sur le langage. Le langage est quand même la grande affaire d'Orwell. L'un s'appelle La politique et la langue anglaise et l'autre Où meurt la littérature. Tous deux sont publiés, je crois bien, en 1946. Raphaël Entoven, sur les analyses d'Orwell sur le langage, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses sur le langage et on est tout à fait dans la question de savoir si la verticalité du pouvoir est le bon angle de vue. Effectivement, Orwell décrit un pouvoir vertical. Effectivement, il décrit une tutelle, une contrainte. Mais la particularité de la tutelle qu'il décrit, c'est ce qu'on apprend à la toute fin quand O'Brien parle à Winston Smith. Il lui dit cette chose fascinante. Il lui dit, le pouvoir des anciens totalitarismes était de dire tu dois. Je le cite dans la traduction Audiberti, c'est celle que j'ai plus lue. Il me dit, le pouvoir des les anciens totalitarismes vivaient sur le tu dois. Nous, on est sur le tu es. Autrement dit, on substitue le tu dois au tu es. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tu aimes Big Brother. L'enjeu n'est pas la contrainte, parce qu'on peut toujours s'opposer à une contrainte. L'enjeu, c'est le façonnage des consciences. Et, alors, il décrit ça merveilleusement, le lavage de cerveau en Union soviétique est une illustration parfaite de la chose. Mais, autre illustration possible de la chose, le régime marchand lui-même, par exemple, pardon de les citer, mais c'est comme ça, avec Carrefour, je positive. C'est une illustration parfaite d'une contrainte qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire d'un sujet qui se substitue à moi et qui, l'air de ne pas me contraindre, puisqu'il est moi-même, me présente mon désir, m'informe, me renseigne sur mon propre désir. Et cette façon sournoise d'exercer la contrainte sur les individus, c'est-à-dire de présenter la contrainte comme un désir. L'iPhone, vous le désirez. Alors évidemment, c'est un désir qu'on a créé. Mais l'iPhone, je le désire, dit l'affiche, dit la pancarte. En deux verres noirs, je suis moi. Pardon, ces trucs qui me viennent. Mais je veux dire, ce modèle publicitaire-là, est exactement décrit par Orwell quand O'Brien donne à Winston Smith le fin mot du lieu où il se trouve, à savoir notre commandement est « tu es », de manière à ce que plus personne ne se dresse jamais contre nous. Et c'est en cela, si vous voulez, que sans méconnaître la dimension importante en termes de critique d'un totalitarisme vertical orwellienne, elle est essentielle. Mais sans méconnaître ça, moi, il me semble, si vous voulez, que le despotisme sournois, la transformation de l'espace public en cage de verre, le tribunal sans appel de l'opinion publique, les réseaux sociaux, le remplacement de la délation par l'indiscrétion, la police secrète sous la forme d'Internet, le remplacement de la calomnie par la rumeur, ou bien tout simplement le remplacement de l'œil de Moscou par l'œil de l'appareil numérique de votre voisin ou du smartphone de votre voisin, tout cela me semble désigner un totalitarisme horizontal dont, paradoxalement, le récit d'Orwell permet de prévoir les linéaments, de penser les contours. Donc oui, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas que l'Union soviétique dans le livre d'Orwell, mais il y a plus que ça. Il y a plus que la verticalité du totalitarisme. Oui, il y a cette façon, le despotisme sournois des démocraties.
On est dans l'héritage de ce que montre Orwell, effectivement. Enfin, on peut penser qu'on est dans cet héritage-là. C'est pas exactement ce que...
Pour répondre, Marc, à votre question, pardon, c'est vrai. Parce que votre question portait sur le langage. Effectivement, la novlangue est au cœur de ça. Le néo-parler est au cœur de ça. Mais les modalités de la novlangue, aujourd'hui, sont hyper démocratiques. Ouais. Personnellement, j'en vois deux. C'est le globish d'un côté et l'écriture inclusive de l'autre. Ce sont deux modalités de la novlangue, deux modalités de la destruction du langage sous imposition, pour le coup verticale d'ailleurs, de la morale.
Ce que montre Orwell, c'est que entre l'Union soviétique et le point commun entre l'Union soviétique et l'Ouest et le système marchand, c'est finalement le système publicitaire mise sur le désir des individus, le système soviétique mise sur une conception de la citoyenneté. On est tous ensemble, on est tous unis, mais l'idée c'est toujours ça, c'est le désir et l'amour qui nous réunit, et au nom de ça, on nettoie le langage, dans les deux cas.
Et on nettoie la mémoire.
Puisqu'on
pense comme on parle, et on pense comme on se souvient. Donc, et derrière ça, dernier point, vraiment, je ne veux pas être trop long, c'est la double pensée, bien sûr, ce qu'il appelle la double pensée, qui est le problème de Winston Smith. Winston Smith doit réécrire le passé tous les jours. Oui. Il est le déboulonneur, si vous voulez. Orwell est celui qui permet le mieux de comprendre le déboulonnement des statuts, à mon sens. Il est le déboulonneur. Il est celui qui doit réécrire le passé au gré des besoins du présent. Et ce besoin de réécrire le passé, lui-même se souvient de ce qu'il avait écrit la veille. Il a besoin de la double pensée. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être à la fois informé et fanatique. Et la double pensée, c'est-à-dire de savoir ce qu'il en est et en même temps de nier ce qu'il en est. Et ce modèle-là, on le retrouve dans la langue de bois aujourd'hui. Quand vous entendez Bruno Retailleau parler des caricatures du prophète et dire « il faut les diffuser massivement, mais 30 secondes plus tard, il ne faut pas les diffuser massivement », vous avez un modèle de double pensée. C'est la langue de bois qui la prend en charge.
Okay.
France Culture, Signe des temps, Marc Wetzmann.
Alors, parmi les outils centraux pour refaçonner le langage selon les desiderata de Big Brother, il y a les intellectuels, qui sont une des grandes affaires aussi d'Orwell. Bruce Bégout, dans Cours essai sur une idée fondamentale de la pensée politique, de la décence ordinaire, vous opposez l'intérêt d'Orwell pour les gens ordinaires, justement, et sa critique des intellectuels.
Oui, en un sens, mais enfin, je voudrais tout d'abord dire que Orwell n'a jamais critiqué en soi l'intellectuel.
C'est un
intellectuel, il a beaucoup d'amis intellectuels. Ce qu'il critique, au fond, c'est lorsque l'intellectuel se met aux ordres d'un pouvoir. Au fond, ce qu'il critique, c'est l'intelligentsia. Dans de nombreux textes, il critique d'ailleurs les critiques des intellectuels venant, par exemple, de la presse conservatrice, qui, au fond, valorise plutôt ce qui serait de l'ordre de la spontanéité vitale, vous voyez, contre l'intellectuel qui pense, l'érudit, etc. Donc, il n'est pas du tout dans cette tradition de critique de l'intellectualisme.
Oui,
non, ce qu'il critique, c'est, au fond, la fascination de certains intellectuels pour le pouvoir.
Pour le pouvoir, oui.
Et le fait que... Ils abandonnent d'une certaine manière, ou ils trahissent ce qui semble être, au fond, les fondements même de leur pratique, à savoir le souci de l'exactitude, de la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, tout ceci pour non seulement acquérir un certain pouvoir dans ces pratiques partisanes, mais aussi, comme il le dit, pour tenir eux-mêmes le fouet. Donc en fait, ce qu'il critique chez l'intellectuel, c'est cette tentation totalitaire ou... même du pouvoir, va amener l'intellectuel à quitter son domaine, qui est celui, du savoir, du questionnement, du scepticisme, on pourrait dire méthodologique, et qui va le convertir, au fond, en une tête froide, détachée des réalités ordinaires, et qui va se soumettre... lui-même, au fond, à des pratiques.
Oui. Alors vous rappelez dans votre livre que Orwell propose trois types d'explications, parce que c'est une des grandes questions qu'il pose, qui est pourquoi les intellectuels sont-ils à ce point attirés par les totalitarismes. C'est une des grandes questions d'Orwell. Il propose trois explications que vous résumez dans votre livre. D'une part, l'intellectuel est coupé du monde de la vie quotidienne. Ensuite, l'intellectuel se cuirasse contre le peu de sens moral qui demeure en lui et adopte sans même se rendre compte parfois la froideur du calcul et de la ruse. Mais surtout, selon le constat qu'Orwell ne cesse de faire, l'intellectuel aime fortement le pouvoir. Il vise à acquérir une position sociale par ses seules compétences théoriques. Rien ne lui plaît tant que l'idée qu'il puisse agir directement sur les événements. Aussi est-il littéralement fasciné par le pouvoir, plus d'ailleurs pour la puissance de décision qu'il représente que pour ses ors et ses salons. Toutes les idéologies en vogue ces 12 dernières années, le communisme, le fascisme, le pacifisme, sont en définitive des formes d'adoration du pouvoir. Un culte du pouvoir qui s'expliquerait par la volonté de mettre en pratique une soi-disant supériorité théorique en modifiant le réel.
Oui, mais c'est sans doute dû, au fond, à un des traits caractéristiques de la modernité, à savoir la rationalisation. À partir du moment où le pouvoir s'appuie sur la rationalisation, les gens qui sont censés appartenir à ce monde de la rationalité acquièrent du pouvoir. Donc depuis le XVIIIe siècle, nous voyons monter une puissance des intellectuels. Tocqueville, dans, au fond, son analyse de la Révolution française, voit l'influence grandissante des intellectuels dans les événements politiques. Et il voit dans la Révolution française, au fond, la conséquence plus ou moins directe des travaux des philosophes du XVIIIe siècle. Mmh. Donc ces philosophes, ces penseurs, ces intellectuels, ils voient bien que Enfin, la modernité leur donne un plus grand pouvoir d'agir sur les gens, sur la modification de la réalité, et parfois ils sont fascinés par ce pouvoir. Donc je dirais qu'il y a des raisons sociales et même techniques et politiques qui font appel aux intellectuels. Vous voyez par exemple notre comité scientifique, ce sont quand même des savants qui doivent intervenir dans la sphère publique, et donc il y a une nouvelle, on peut dire, collusion, voire collision entre le monde intellectuel savant et le monde politique. Bien évidemment, certains intellectuels fascinés par le pouvoir souhaitent, comme le disait Burnham dans son air managérial, ce sont des technocrates, ils souhaitent au fond, voilà, par le logos, avoir une sorte de logocratie, hein, de pouvoir.
Et ça, indépendamment indépendamment de l'orientation politique. Hein, dans
oui,
le livre,
oui, parce que
le portrait qui, le portrait type de l'intellectuel, hein, c'est celui qui, pour qui l'affection, l'amitié, la bienveillance ou même la simple politesse paraissent naïfs. Le fin du fin se nomme le réalisme. Et Orwell écrit : il est logique de fermer les yeux sur la tyrannie et les massacres une fois posé que le progrès est inéluctable. Alors Orwell s'intéresse à l'intelligentsia anglaise, mais Raphaël Enthoven, est-ce qu'on pense pas quand même pas mal à la France quand on lit ça ?
Juste un mot sur cette phrase, fermer les yeux sur les massacres, une fois qu'on a tenu le progrès pour inéluctable, c'est une phrase extraordinaire. On est vraiment en présence, c'est le premier à formuler ça, c'est du théorisme. Exactement, c'est ce qu'on appelle du théorisme intellectuel. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est la façon qu'il a de dire, voilà, les réalités, la douleur concrète, palpable du présent est soluble dans la perspective d'un monde meilleur. Et à l'instant où l'on se donne, où l'on vit tranquillement le sacrifice du présent à un horizon de céleste ou un horizon de réconciliation ou de paix générale, à l'instant où on fonctionne comme ça, c'est là qu'opère la trahison d'éclair. Mmh. La trahison d'éclair est dans cette modalité du déni, c'est-à-dire le déni de la réalité du présent au nom d'un monde meilleur. Et alors, ce déni-là peut prendre exactement la forme de la mutabilité du passé dans 1984 au nom de l'harmonie supérieure ou de la dilution de l'individu, des revendications individuelles au nom de l'harmonie supérieure. C'est pour ça que c'est si important dans 1984 que Julia et Winston fassent l'amour. Et qu'il y a cet échange extraordinaire où il dit à Julia, il lui dit « Est-ce que tu as eu beaucoup d'amants avant moi ?» Elle dit « Oui, beaucoup. » Et il lui dit « Tant mieux. » Il a cette phrase étrange, il dit « Je déteste la propreté. » C'est comme ça qu'on lui a appris à s'exprimer, si vous voulez. Mais c'est très important qu'il le dise parce qu'il a besoin, ce qu'il rappelle là, c'est la réalité d'un corps, la réalité d'une chair, le présent qui n'est pas soluble dans une idée.
Dans son article « Où meurt la littérature », Orwell fait référence aux catholiques et aux communistes. Il dit d'une part que la littérature en prose telle qu'on la connaît est le produit du rationalisme et de plusieurs siècles de protestantisme et d'autonomie individuelle, et d'autre part que catholiques et communistes ont ceci en commun qu'ils considèrent leurs opposants comme incapables d'être à la fois honnêtes et intelligents. Et le catholicisme et le communisme sont même deux grandes forces de l'identité française. Je me suis demandé si ça n'expliquait pas une certaine tendance intellectuelle française, Raphaël Enthoven.
Orwell est à l'origine, puisqu'il est même en amont du texte d'Aron. C'est incroyable, le nom du texte m'échappe. Le texte de 1945 d'Aron. Ouais. C'est fascinant. Bref, le texte dans lequel Aron parle de ces deux religions séculières que sont l'opium des intellectuels, excusez-moi. Le texte dans lequel Aron parle de ces deux religions séculaires que sont de la religion séculière qui est le communisme, et il en parle dans les mêmes termes que le catholicisme ou que la hiérarchie ecclésiale, est très important, mais c'est un texte qui émane d'intuitions qui sont d'abord, je crois, celles d'Orwell, peut-être en amont, celles du premier Sartre. Celles du premier Sartre, qui ensuite est devenu lui-même prophète en son temple, mais c'est une autre histoire.
Célia Izohar, je me souviens d'une interview de Helena Bonner, qui était la femme du dissident Sakharov, qui disait au début des années 2000, le 21e siècle sera la synthèse du pire du communisme et du pire du socialisme. Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est pas une phrase qui s'inscrit un peu dans les analyses d'Orwell, et est-ce que c'est pas un peu à ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui?
Alors, du pire du communisme et du pire du capitalisme.
Du capitalisme, oui, pardon.
Oui, pour clarifier. Effectivement, il y a de ça, mais un peu plus en amont, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, la structure profonde de ces sociétés n'est pas tellement différente.
Oui.
Dans son écrit qui vient de paraître en France sur Orwell, qui s'appelle Orwell à ma guise, George Woodcock, qui l'a bien connu, qui en écrit une très belle biographie, lit 1984 comme un roman sur les conséquences possibles d'une foi aveugle dans le progrès et d'un consentement à l'avènement d'une société managériale. C'est la même société dans les deux cas. Oui. C'est la même que Dwight MacDonald, dont j'ai traduit aussi un ouvrage qui s'appelle « Le socialisme sans le progrès », dénonce en montrant que ce sont des sociétés qui sont adossées à la croissance d'un complexe militaro-industriel, terme, et plus récent.
En tout cas, on se rend compte que l'idéologie n'est pas très importante, finalement. C'est pas l'important, c'est pas l'idée que l'idéologie soit socialiste ou que la société repose sur des préceptes marchands. La structure fondamentale est la même.
L'idéologie n'est pas très importante et comme on le voit bien dans le roman de manière très drôle, elle peut changer du jour au lendemain, puisque le nom même du régime avec lequel on est en guerre peut changer d'une minute à l'autre et il faut réécrire toutes les banderoles à toute vitesse. Mais non, l'idéologie s'efface derrière l'infrastructure matérielle. Et c'est ça la grande actualité de ce roman, c'est que nous avons assisté pendant les 70 ans qui viennent de s'écouler à une croissance absolument inouïe de cette infrastructure de contrôle, l'émergence d'une société de contrôle inédite, et que à partir du moment où elle est en place, il paraît extrêmement difficile de faire en sorte qu'elle ne soit pas pleinement mobilisée, pleinement activée. Et c'est là où, évidemment, il y a quelque chose de beaucoup plus glaçant à la lecture d'Orwell aujourd'hui qu'il n'y avait à l'époque. C'est que lui, il décrit un monde sans dehors. Et on voit bien qu'on a construit un monde sans dehors beaucoup plus efficace qu'à l'époque. Et surtout, cette mainmise et cette toute-puissance qui résulte aussi de la volonté des intellectuels, comme l'a bien dit Bruce Bécou, elle s'étend à tout ce qu'on appelle la nature. Elle s'étend à l'ensemble des milieux.
Voilà, on va devoir s'arrêter là pour les raisons de temps. Mais voilà, je voulais ce petit éclairage sur Orwell et que vous pouvez acheter les livres en click and collect à défaut d'aller dans les librairies. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Perret Legras et à la technique Olivier Hanet. Et dans un instant, une histoire particulière.